Bonjour à tous. Je n'ai pas dit que je vous dois quelques mots d'excuses, mais peut-être d'explication. La dernière fois que je suis venu ici, je ne veux pas dire qu'il y a eu un grand malentendu, non. Mais c'est un culte qui a privilégié le chant, la louange. Et je vous assure que j'avais énormément apprécié ce moment-là. On m'avait averti que, puisque c'était dans une sorte d'habitude d'avoir un temps plus long de louange, que je devais faire attention que la prédication ne soit pas trop longue. Et là, j'ai été un peu trop extrême. Je vous prie de m'excuser. J'ai développé, mais très brièvement, les quatre points que j'avais prévus. Et puis finalement, je ne sais pas, ça fait entre 5 et 8 minutes maximum. Alors, certaines personnes se sont dit, il s'est vraiment mal préparé ce matin. Mais ce n'était pas le cas. Hein. J'ai enlevé, dans ma préparation, j'avais enlevé des choses que j'avais préparées. Mais l'essentiel, je vous l'avais dit, c'était l'empreinte de Dieu sur la terre. Hein. Et puis aussi que notre vie, en tant que chrétien, était l'empreinte de Dieu pour la société qui nous entoure. Mais je l'ai fait très brièvement, et puis certains ont été très surpris en disant « Tiens, alors franchement, il ne s'est pas fatigué ce matin. » Mon but n'était pas de faire une sorte de prédication en économie, ça peut arriver. Et puis il n'y avait rien de dramatique, quoi, je comprends bien. Voilà. Il y a quelque temps de cela, nous étions invités pour une prédication sourmande, et puis nous sommes à environ, je ne sais pas, 100 km de chez nous. Et nous sommes partis le matin, aux environs de 8 heures, je pense. Et j'avais bien préparé ma prédication, j'étais satisfait de ma préparation, et je me réjouissais de pouvoir la donner à cette église en Suisse romande. Et nous étions au niveau de Bienne, en conduisant, et puis un trouble bizarre, j'étais en train de conduire, ma femme était à côté de moi, un trouble bizarre s'installe en moi et j'ai cette conviction que je suis en train de me tromper. Pas de route, hein, mais je ne dois pas apporter cette prédication ce matin-là dans cette église. Ça déstabilise, hein. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux plus ouvrir ma Bible, je suis en train de conduire, je ne peux plus faire des recherches, qu'est-ce que je dois faire? Et s'impose à moi un autre thème de prédication. Alors, dans ma tête, je revisite tous les passages de la Bible, le passage principal qui s'impose à mon esprit en rapport avec le thème, puis je me dis, c'est ça qu'il faut que j'apporte ce matin, mais franchement, pourquoi je dois faire ça? Je ne comprends pas. Mais il doit y avoir une raison à ça. Ce n'est pas le hasard que ça arrive. Et puis, ce n'est pas que ça me fasse plaisir. Mais après tout, j'ai une sorte de dialogue avec Dieu. Je dis, je ne suis pas là pour faire ce que je veux. Je suis à ton service. Bon, si je dois changer de thème, je le fais. Ce n'est pas dans mon habitude, je le fais. J'arrive dans l'église. Je dis au président du culte, excusez-moi, mais ça va être un peu spécial ce matin. Vous avez l'impression que je ne me suis pas préparé, mais je m'étais très bien préparé, mais je vais apporter un autre thème. Il dit, on verra bien. Alors, c'est ce que j'ai fait, et j'ai apporté ce thème qui s'est imposé à moi, sur un texte biblique bien clair, je ne vais pas le faire ce matin. Et puis voilà. Je me suis dit, à moi-même, mais si je dois aborder ce thème-là, c'est qu'il y a dans l'Assemblée une personne qui avait besoin d'entendre ça. C'est pas plus compliqué, mais je ne savais pas qui. Et puis on est rentré à la maison. Quelques semaines plus tard, je reçois un message de ce président de culte qui me dit, ce matin-là, à 8h30, une personne a décidé de venir au culte. Ce n'était pas son habitude. C'est exactement à ce moment-là que j'ai reçu l'ordre de dire autre chose. Et il est clair que ce matin-là, j'ai apporté, sans le vouloir, la réponse aux questions qu'une personne se posait. Et ce matin, certainement, si j'ai bien compris le message que j'avais reçu, cette personne est repartie chez elle en disant « J'ai eu la réponse à mes questions ». Ça peut arriver. Ça m'a rassuré, hein, je me dis, bon, enfin, ce qui était fait, était fait. Pourquoi je vous dis cela? Ben, c'est que pour la prédication de ce matin, depuis des semaines, très franchement, je me prépare, je me suis préparé très sérieusement, jour après jour, sur un texte, sur l'histoire d'un texte de l'Ancien Testament, sur le contexte historique et tout. J'étais assez satisfait de ce que j'allais faire. Et j'allais être relax pour ce matin. Puis voilà, dans la nuit de jeudi à vendredi, à 2-3 heures du matin, je me réveille. Bon, ça peut arriver, hein. Il n'y a rien de catastrophique si on se réveille à 3 heures du matin. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, il semble que les gens de mon âge, quand ils se réveillent comme ça au milieu de la nuit, s'ils sont chrétiens, ben, ils prient. Hein? Ou ils pensent à plein de choses. Ils essayent d'évacuer les soucis aussi, ça peut arriver. Oh, ben, j'ai fait un peu tout ça. Et puis voilà que ce trouble s'installe en moi, que ce que je préparais pour ce matin, c'était pas ce que je devais dire. Oh, je me dis, il ne me reste plus beaucoup de temps, hein. Puis j'ai un programme assez chargé en tant que correspondant de presse. À mon âge, étant donné que je suis chrétien depuis longtemps, que je lis la Bible depuis que j'ai l'âge de 10 ans, alors je connais quand même beaucoup de choses, c'est normal, hein. Et puis c'est un autre thème qui s'impose à moi. Je me dis, ah oui, mais ouais, c'est pas trop difficile finalement ce thème-là. J'ai tout ce qu'il faut dans mon expérience, dans mes observations, connaissance de la Bible, pour ça, ça va marcher. Et puis vendredi, ben, et samedi, j'ai mis en ordre sur le papier mes notes par rapport à ce nouveau thème. Alors, je vais le faire ce matin. Il se trouve que je me trouve un peu dans cette situation de me dire, mais pourquoi tu dois parler de cela ce matin à Neuchâtel? Mais après tout, je me dis, c'est pas mon problème. Dieu sait pourquoi je vais vous parler de ce que je vais faire, mais j'aimerais au préalable vous dire une chose. C'est avec beaucoup d'amour que je vais l'apporter. C'est sans aucun esprit de jugement contre qui que ce soit. Personne dans cette église m'a informé ou m'a poussé, m'a influencé pour que j'aborde ce que je vais vous dire ce matin. Donc que ce soit clair entre nous, je ne suis pas sous l'influence d'une personne qui m'a dit « il faudrait que tu dises ça ». Mais pas du tout. Alors je vais le faire. Ce sera peut-être un peu dans un style inhabituel, mais je suis tranquille, je crois faire ce que je dois faire. En rentrant dans un culte, toujours en Suisse romande, il y a quelques mois peut-être, tout à coup nous sommes dit, ah ben, plutôt que de faire que Anna fasse à manger à la maison à midi, on s'arrête le long de la route et puis on va dans un restaurant manger quelque chose. Alors on s'est arrêté dans un restaurant où on mange avec les doigts. Je ne fais pas de pub, vous voyez. Ça nous arrive parfois, ça nous amuse beaucoup. On a mangé. Mais, alors qu'on a commandé dedans, et puis il faisait beau temps. Donc, dans ce restaurant-là, sur le trottoir, il y avait des tables où on pouvait s'installer. Alors, je me suis installé, ma femme, une de ces tables. Puis, juste la table d'à côté, il y avait trois jeunes filles qui parlaient assez fort, je dois dire. C'était impossible de ne pas les entendre. C'est pas que j'ai cherché à savoir ce qu'elles disaient, mais je ne peux pas faire autrement. Alors, j'écoutais. Et puis, elles parlaient entre elles. C'était intéressant. Elles parlaient de leur éducation, de leurs parents, de toutes sortes de choses. En ce sens, dirait, est-ce que toi, tu as été éduqué de façon sévère, dure, est-ce qu'il y a eu... Et puis, elles parlaient, franchement, c'était vraiment intéressant, je dois le dire. Et puis, elles disaient, est-ce que tu as été protégé, surprotégé? Elle a dit, oui, j'étais un peu surprotégé. Mais bon, hein, c'est comme ça. Et puis, elles évoluaient. Et puis, tout à coup, il y en a une qui dit... J'ai tout, elles avaient environ 20 ans, je pense. Mais, j'ai tout. C'est bien, tout ce que mes parents ont fait pour moi. Mais je sens un vide en moi. Il me manque quelque chose, j'ai un vide au fond de moi. Vous ne trouvez pas que c'est intéressant? On n'était pas dans une église, on était dans un restaurant où on mange avec les doigts, sur la terrasse, sur le trottoir. Et cette jeune fille, elle parle comme ça. Elle dit, mais puis vous. J'ai pas tellement écouté les autres, mais celle-là disait, il me manque quelque chose. Pourtant j'ai été, mais il me manque quelque chose. Est-ce que j'ai mal fait ou pas? J'ai pas réagi. Mais je voulais pas entrer dans la conversation des voisines, hein. Parce que moi j'aurais pu me lever, j'aurais pu dire à cette jeune fille, moi je sais ce qui vous manque. Je pense savoir ce qui vous manque. C'est la présence de Jésus-Christ dans votre vie. Et j'avais raison, mais je ne l'ai pas fait. Bon, mettez-vous à ma place, hein, c'est comme ça. Je sens un vide en moi. Il me manque quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Moi, je savais quoi. Je connais une femme très instruite de ma région, dans le Jura bernois, qui est peut-être un peu plus jeune que nous. Dans sa jeunesse, je la connaissais depuis très longtemps, cette fille qui avait, à ce moment-là, fait, je crois même, une école biblique, des études, qui s'était beaucoup engagée dans des corps chrétiens et tout, et avec, elle était une amie de ma belle-sœur, qui était aussi engagée dans les camps, c'était génial. Ma belle-sœur a passé une bonne partie de sa vie comme missionnaire au Brésil, et puis quand elle rentre en congé, elle va visiter son ancienne copine. Elle parle. C'est ce qu'elle a fait. Et c'est arrivé il y a peu de temps. Ce couple du Brésil était en Suisse, et puis elle est allée visiter sa copine. Et puis, on a parlé après. Et ma belle-sœur, elle dit... je ne sais pas si Anna lui a dit, comment elle va Et puis, elle dit, avec Dieu, elle a tout basculé, elle a tout jeté. Et puis, elle vit en concubinage. Et puis, au sujet de la foi. Alors là, j'ai trouvé intéressant. Cette femme, qui a eu toute la connaissance, qui a toute la connaissance de Dieu, qui s'était beaucoup engagée, dans l'œuvre de Dieu, pour les jeunes, pour elle-même, tout, elle lui a dit ceci à ma belle-sœur. Si j'ai tout lâché, c'est qu'on m'a trompé sur la marchandise. Intéressant, hein? On m'a trompé sur la marchandise. J'en ai déduit certaines choses. Je crois que cette femme qui était très jeune, à ce moment-là, maintenant qui est plus âgée, elle a fait plein de choses, sincèrement, dans l'œuvre de Dieu, comme on dit, pour les camps, pour l'église, je ne sais tout quoi. Mais quelque part, si elle a dit on m'a trompé sur la marchandise, je veux bien croire que la marchandise a pu la tromper. Je crois qu'elle était sincère. Mais elle n'a pas dit Jésus m'a trompé. C'est une énorme nuance. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Autant l'autre jeune fille avait dit, je sens qu'il me manque quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je ne tire pas une conclusion à 100% dans ce que je vous dis. Mais je crois que cette femme a eu cet engagement dans les milieux chrétiens très sincère. Parce qu'elle aimait l'ambiance, elle aimait le contexte, elle trouvait des amis, ça lui plaisait, c'était intéressant, c'était sérieux. Mais au fond de moi-même, je dis pour moi, je pense qu'elle n'a jamais rencontré Jésus-Christ. Si bien qu'à un moment donné, comme nous tous, en tant que, on a des déceptions avec l'Église chrétienne et des amis, on en a, on se sent parfois trompé, hein, il faut le reconnaître honnêtement. À ce moment-là, on peut tout lâcher. Mais elle a tout lâché. Parce que cette marchandise n'a pas répondu à ses attentes à un moment donné. On peut être trompé sur la marchandise quand on cherche dans le christianisme une marchandise. Dans une église évangélique, en Suisse aussi, il y avait un couple très engagés pendant des années. Ils avaient deux enfants, d'abord petits, ils ont grandi, ils sont allés au cathé, ils ont fini le cathé, l'école, etc. Et ce couple était vraiment très engagé pour toutes sortes de choses. Et puis un jour, leur pasteur reçoit une lettre. Le couple démissionne, effet immédiat. Ça choque quand même, hein? Il n'y avait pas, d'après ce que je pouvais comprendre, de problème particulier dans l'Église. Pourquoi avait-il envoyé leur démission comme ça au pasteur qui s'est informé? Alors là, cette réponse qui est intéressante. La femme, instruite de tout, a dit: maintenant que nos enfants ont fait leur cathé, on n'a plus besoin de l'Église. Ils ont eu une éducation chrétienne, ils ont eu tout ce qu'il fallait. Mais pourquoi viendrait encore? Ah! Autrement dit, leur engagement pendant des années, il était sérieux. Ils étaient crédibles, ces gens. Mais ils faisaient tout ça pour que leurs enfants aient un exemple. Ils aient une éducation chrétienne en cathé, les connaissances du christianisme et tout ça. Et puis quand les enfants sont partis, pourquoi encore aller à l'église? Démission. C'est quand même étonnant tout ça. Hein? Je prêchais dans une église il y a quelques années, et puis j'avais donné, sauf erreur, une prédication sur le fait que la manière de penser de Dieu n'était pas la même que nous. Et que si on voulait vraiment suivre Dieu, il fallait se soumettre à la pensée de Dieu. Ça me semblait élémentaire. Avant du culte, je ne sais pas s'il y avait un petit apéro ou quoi, une femme très bien s'approche de moi. Et elle me dit: je ne suis pas d'accord avec votre prédication. Ah bon? Pourquoi? Alors elle travaillait dans le domaine de la psychologie et que la médecine et tout ça, donc c'est pas n'importe qui cette femme. Elle me dit: non, je ne suis pas d'accord, il faut soumettre notre pensée à Dieu, on a toute notre manière de penser. Bon. Donc moi je ne peux pas, elle dit, je ne peux pas me soumettre ainsi à la pensée de Dieu, ça ne va pas. Je dis: mais vous êtes libre, hein? Mais il me semble que ce que j'ai dit correspondait à ce qu'on pouvait comprendre de la Bible. Bon, pensez ce que vous voulez. Elle était donc mariée, elle avait des enfants, c'est une famille bien, sur tous les plans. Et quelque temps plus tard, j'apprends qu'elle avait une relation adultère, qu'elle trompait son mari. En cours de la discussion que j'avais eue avec elle, elle me disait, quand j'habitais dans une autre ville, eh bien, on avait un groupe d'adultes où on se retrouvait, une sorte de cellule de maison, j'aimais beaucoup ça, on discutait ensemble, il y avait une bonne ambiance, on se faisait des amis et tout, c'était vraiment génial. Et puis j'allais beaucoup à l'église parce qu'il y avait un bon groupe de louanges, il y avait de l'ambiance et tout ça, c'était vraiment bien. Puis ensuite ils ont changé un peu de style dans l'église, alors ça n'allait plus la peine d'y aller, hein. Ils chantaient plus de la même manière, et plus la même ambiance. Donc ce couple s'est divorcé. Est-il le problème? Que j'ai réfléchi. J'en tire pas une conclusion définitive. Mais je crois que cette femme aimait l'ambiance de l'église, aimait avoir des amis chrétiens. Elle appréciait tout ça avec son mari. Mais quand ça, il n'y a pas eu plus tout ça, ben, il manquait quelque chose. La marchandise n'était plus là. Elle a trouvé une autre solution pour remplir le vide de son cœur. Et une relation adultère a été sa réponse. Ça fait mal. Quand on entend ça, on dit: non, mais quand même. Vous avez entendu, il y a quelques années, ça paraît un peu fou, hein, mais les médias en ont fait un grand cas. Un pasteur protestant hollandais a clairement déclaré qu'il était athée, il ne croyait pas en Dieu. Mais il avait deux paroisses qui marchaient très bien. Il a fait des conférences en Suisse d'ailleurs, il était un homme extrêmement apprécié comme pasteur. Il disait clairement: je ne crois pas en Dieu. On lui dit: mais comment tu peux? Ben, ça allait pour lui. Et ses paroissiens ne se plaignaient pas de lui. Ils savaient qu'il était athée. Mais il annonçait, il prêchait, il faisait tout ce qu'il devait. Et pourtant, il lui manquait l'essentiel. Il ne croyait pas en Dieu. Mais c'est fou quand même. Il répondait à des attentes, mais lui-même, il n'y croyait pas. Il croyait certainement au message, à la valeur du message chrétien, à toutes les implications. Je pense à plein de choses, mais lui-même, non. Il y a deux années de cela, j'avais lu dans un des livres de Billy Graham que, à la fin de ces grandes rencontres et des dizaines de milliers de personnes, il faisait des appels à la décision. Et puis, pendant que la chorale souvent chantait telle que je suis, hein, ça vous dit quelque chose à vous les anciens, hein, les gens venaient devant avec les conseillers aussi qui priaient avec eux. Et Billy Graham voit, c'est ce qu'il dit, un homme très bien âgé, les cheveux gris, très bien habillé, qui s'avance. Et Billy Graham se dit, moi je veux m'approcher de cet homme et je veux prier avec lui. Il va, et puis il lui demande, mais pourquoi vous vous êtes, question de base, hein, pourquoi vous vous êtes avancé? Et cet homme lui dit, j'ai été toute ma vie un missionnaire dans tel pays. J'ai fait un gros travail. Mais aujourd'hui, en entendant votre prédication, je me rends compte que je ne me suis jamais converti. Et je veux le faire. Et c'est pour ça que je suis là. Et Billy Graham a prié avec cet homme qui s'est converti. Vous voyez comme c'est subtil? Ça fait un choc, hein? Oui, mais jusqu'à maintenant, tu n'as pas lu les passages de la Bible. Alors, je ne veux pas vous abreuver de passages de la Bible, hein? Que ce soit bien clair. Mais j'aimerais rassurer avec force chacun, chacune d'entre vous, si vous vous posez cette question. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, au verset 12 et 13, bon, il est parlé de la parole, mais c'est Jésus. Alors il dit ceci, mais à tous ceux qui l'ont reçu, hein, Jean 1, 12, la parole, c'est-à-dire Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça, c'est un passage. Peut-être qu'au fond, toi-même, tu dis, mais je ne suis pas digne, je ne peux pas être un enfant de Dieu, c'est trop compliqué. Je n'ai jamais ce pouvoir. Mais tu as raison. Mais si tu reçois dans ta vie, si tu crois pleinement en Jésus-Christ, que tu l'accueilles en toi, tu reçois le pouvoir d'être enfant de Dieu. C'est Jésus qui l'a dit. C'est pas rassurant, une chose pareille. Ah, comme ça fait du bien d'entendre ça. Il y a d'autres passages. Je pense à un qui est dans 2 Timothée 3:5. Alors, il faut faire attention à ce passage. Parce qu'il dit beaucoup de choses en très peu de temps, en très peu de mots. Bon, on veut commencer un peu avant, hein. On veut commencer au 1, pas ça déforme trop. 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ah, voilà une liste, hein. Alors, on se dit, est-ce que la même personne peut être tout ça? Moi, j'en doute, hein. On ne peut pas être à la fois tout ça, quand même. Ça fait trop. Ça fait vraiment trop. Mais, juste après, c'est renversant. Ils auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est quoi l'apparence de la piété? Eh bien, c'est de donner l'image d'avoir des convictions chrétiennes, religieuses, de la piété. C'est de vraiment donner cette apparence. c'est de donner de soi une image respectable, chrétienne, honnête, loyale. Ces gens-là, s'ils ont l'apparence de la piété, ben ils n'ont pas, tous les défauts qu'on lit juste avant. Parce que si on est tout ce qu'il y a avant, on ne peut pas avoir l'apparence de la piété, soyons raisonnables. Donc, ce que je dis ce matin, et je ne juge personne, mais ce qu'il est possible, de vivre avec des années et des dizaines d'années dans l'apparence de la piété, d'avoir un engagement d'église, de mission, de responsable d'église, c'est possible. Et puis de ne pas avoir Jésus-Christ dans son cœur, dans sa vie. Mais c'est terrible une chose, oui, c'est terrible. Et dans Romains 8, verset 9, il est dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit, le Saint-Esprit, donc dans sa vie, il n'est pas un enfant de Dieu. Ah, voilà que ça devient sérieux. Il n'est pas dit que pour être un enfant de Dieu, il faut avoir plein de connaissances. Mais il y a une chose qui est indispensable, c'est d'avoir le Saint-Esprit dans sa vie. Parce que si on ne l'a pas, la Bible dit, Romains 8, 9, on n'est pas enfant de Dieu. Donc on peut avoir une religiosité sincère, honnête, respectable, et ne jamais avoir vraiment ouvert sa vie à l'Esprit de Dieu. Je ne crois pas que j'invente quelque chose que je dis ça. Il me semble que c'est honnête ce que je vois là. Il y a un passage, fais attention, parce que parfois il est utilisé un peu pour attaquer des gens. C'est celui de Matthieu 7. 21. J'espère ne pas me tromper là dans une référence. C'est violent, hein? C'est une parole de Jésus, hein? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et puis ça continue, ça fait peur. Hein. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Non mais attends. Vous ne pensez pas que c'est terrible une chose pareille? Ça veut dire qu'on peut se tromper toute sa vie. Alors, je ne suis pas en train de dire, hein, mais pas du tout, que ceux qui ont le don de prophétiser ou de chasser des démons, ou de par lesquels le ministère a des miracles, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont perdus. Surtout pas. Surtout pas. Mais la possibilité est là d'avoir dans notre vie, je dirais, un service qui porte des fruits. Et puis d'être perdu. Il y en a qui disent non, c'est pas possible. Ben oui, c'est possible. C'est possible. Jésus n'a pas dit non, non, vous n'avez jamais prophétisé. Non, non, vous n'avez pas chassé de démons. Non, non, vous n'avez pas fait. Non. Le problème, il n'est pas là. Vous avez fait plein de choses justes que Dieu a bénies dans sa grâce. Parce qu'il aime tous les gens. Il veut que des gens qui soient possédés de démons soient libérés. Et s'il veut choisir une personne pour prier pour eux, il le fait. Dieu est libre. Dieu peut utiliser n'importe qui pour des choses extraordinaires. Mais ça ne veut pas dire que si on a, je dirais, un ministère d'une certaine efficacité, qu'on est automatiquement enfant de Dieu. C'est bouleversant, c'est renversant. Mais vous imaginez, d'après ce texte, c'est que, heureusement qu'on l'a dans notre texte aujourd'hui, puisqu'on est encore bien vivant, hein, mais ceux qui l'entendront en direct à un moment donné, trop tard. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quand je prêche, c'est ce que je fais maintenant, mais ma prière, c'est que personne ne vive dans l'illusion d'être sauvé. Vous comprenez? Et ce matin, je ne connais pas le fond de votre cœur. Et je ne vais pas faire une enquête. Mais j'aimerais vous le dire avec amour. Ne vivez pas dans l'illusion du salut. Ne vous contentez pas d'une vie religieuse pour penser que ça suffit pour être sauvé. Ça ne suffit pas. Jésus, alors qu'il marchait à travers la Palestine, la Galilée, la Judée, tout ça, c'était génial. Des foules le suivaient. Et dans Jean 6, c'est la dernière référence. Il y a quelque chose de, qui est bouleversant. Je ne vais pas prendre tout le passage. On prend depuis 22. Hein. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué, parce que Jésus faisait des miracles incroyables. Oui, il fallait bien les croire puisqu'ils étaient visibles. Hein. Mais ils nourrissaient des foules à partir de rien du tout. Ils avaient du pain, du poisson. Il y en a même trop, il y a encore des corbeilles remplies. Mais la foule qui avait faim à ce moment-là, ils ont dit, mais c'est trop génial. Il nous donne à manger alors qu'on est pauvre, qu'on n'a pas pris de réserve, et puis il guérit des malades. Non, il faut le suivre, hein, franchement, quelqu'un comme ça, il faut le suivre, plus lâcher. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait pas, qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, d'autres comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu. Ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Il faut dire, quand on parle de la mer, c'est un lac, hein, on peut le traverser. Ce n'est pas le vent, hein, mais ce n'est pas la Méditerranée, hein. C'est traversable, hein? C'est un terme, la mer. Hein? Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus lui répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez. Non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ils ne suivent pas Jésus pour connaître Jésus, mais pour ce que Jésus donne. Et puis, un peu plus, juste après, il lui dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Voilà la clé. Voilà ce que Jésus voulait. Et on a d'autres passages où, quand il a parlé ainsi, finalement, il y en a qui ont compris, qui ont dit, non, mais attends. Il n'a pas décidé de nous donner tous les jours du pain et des poissons et tout, et de guérir tout le monde comme ça. C'est même pas la peine de suivre. On est à côté, on ne comprend pas, il y a quelque chose qui ne joue pas. C'est comme s'il veut autre chose. On croyait qu'il était là pour nous. Et puis voilà, c'est comme s'il nous dit que nous, on est là pour lui. C'est renversant. Bien, ce matin, chers amis connus, inconnus, mon message, c'était ça. C'est de vous dire, si au fond de votre cœur, vous dites, mais j'ai raté quelque chose. J'ai pourtant une vie respectable. On m'apprécie dans mon travail, dans ma famille, à l'église. Mais peut-être, mais je ne sais pas pour qui je dis ça. Peut-être qu'une personne se dit, eh bien, je ne me suis vraiment jamais ouvert à Jésus-Christ. Je n'ai jamais demandé à son Esprit Saint d'entrer pleinement dans ma vie. Donc, quelque part, je vis une vie chrétienne sans être chrétien. Et je vais vous dire, ce n'est pas trop tard. Ça me fait plaisir de pouvoir terminer comme ça un message. Hein. Je vois que vous êtes encore bien vivant. Hein. Ah ouais, hein. Donc, ce n'est pas trop tard. Vous voyez, même ici ce matin, alors je vais terminer en priant, vous pouvez dire simplement avec des mots à vous, vos phrases à vous, mais Seigneur, cette fois je suis d'accord, je te demande d'entrer pleinement dans ma vie, par ton esprit habite ma vie, que je sois vraiment ton enfant, parce que c'est ta volonté. Je vais prier maintenant avant de rejoindre ma place. Seigneur, toi tu ne te trompes pas. Et si j'ai dû dire ça ce matin, même si je ne sais pas vraiment, je ne sais pas pour qui j'ai dû le dire, mais toi tu le sais. Et peut-être même que tu utilises une personne parmi nous pour le dire à quelqu'un. Aujourd'hui, demain, je sais quand. Eh bien, Seigneur, merci pour ta patience envers nous. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Merci pour ton Esprit Saint qui nous convainc quand on a besoin d'être convaincu de quelque chose. Et Seigneur, si nous ressentons une sorte de pression sur nous-mêmes, une sorte de résistance, mais c'est la preuve que tu nous attires. Seigneur, nous voulons te demander que personne parmi nous ne se prive de cette grâce de te recevoir dans sa vie. Et que si une personne devait le reconnaître ce matin, dans le temps que nous vivons, dans ce dimanche, qu'elle puisse le faire avec joie, avec sincérité, et qu'elle puisse enfin mettre pleinement sa vie en ordre avec toi. On te demande beaucoup, Seigneur, mais parce que tu es prêt à faire beaucoup. Et ce qui n'est pas possible pour nous, ben c'est possible pour toi. Et tu es prêt à donner le pouvoir d'être enfant de Dieu à tous ceux qui te reçoivent pleinement avec foi dans leur cœur et dans leur vie. Merci Seigneur. Amen. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Que Dieu vous bénisse et vous conduise. Amen.